Dr. Douglas Winnell. La dernière croisade, le seul véritable espoir pour le monde. Frères et sœurs, alors que nous approchons de la fin de l'année civile, dans le monde occidental, nous voyons défiler une fête après l'autre. Ainsi, nous passons d'Halloween à l'Action de grâce, puis de Noël au jour de l'an. Le monde va se livrer à une série de dîners et de célébrations, et les magasins regorgent de produits saisonniers. Il y a certaines semaines où l'on est littéralement inondé de chants de Noël. Et pour ceux d'entre vous qui ont grandi dans ce monde occidental, il vous arrivera parfois de vous laisser surprendre à fredonner ces chansons. Mais vous vous arrêterez alors aussitôt en disant « Voyons, qu'est-ce que je fais là ?» Nous nous laisserons peut-être aussi emporter par la féerie du spectacle qui s'offre à nous, surtout lorsqu'il neige, et que nous voyons toutes ces belles lumières décoratives qui ornent les maisons. Et c'est beau, je n'en disconviens pas. Mais il faut bien se rendre à l'évidence qu'il s'agit là de fêtes païennes. Elles peuvent nous distraire. L'un des avantages du sabbat est qu'il nous offre l'occasion d'effectuer une pause, de sortir de ce monde et de commencer à nous concentrer sur les choses vraiment importantes, à savoir les grands problèmes et les grandes questions de la vie. Je vais en parler un peu plus tard, mais d'ores et déjà, je voudrais qu'on considère certains points en particulier. Ainsi, en ce jour de sabbat, que chacun de nous se pose la question « Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi Dieu m'a-t-il appelé dans son Église ? Pourquoi Dieu m'a-t-il appelé dans son Église aujourd'hui ? Pourquoi Dieu m'a-t-il appelé dans son Église aujourd'hui ? Quelle est la mission de cette Église en ces temps de la fin ? Quelle est la mission de cette Église en ces temps de la fin ? Sommes-nous concentrés sur cette mission ? Sommes-nous concentrés sur cette mission ? Que se passerait-il si nous ne parvenions pas à accomplir cette mission ? Que se passerait-il si nous ne parvenions pas à accomplir cette mission ? Nous devons réfléchir à ces choses. Oui, qu'adviendrait-il si nous ne remplissions pas le rôle que Dieu nous a appelés à remplir. Qu'adviendrait-il si nous ne remplissions pas le rôle que Dieu nous a appelés à remplir? Frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans un monde de plus en plus séculier. Alors que nous traversons la présente période de festivité, nous sommes soumis à beaucoup de distractions. Oui, à beaucoup de distractions. Cela peut nous déconcentrer et nous dévier de ce qui est important. Dans notre monde de plus en plus séculier, nous entendons très peu parler de Dieu. Certes, à l'approche de Noël, nous entendrons souvent parler de Jésus, mais, comme M. Armstrong avait coutume de dire, « Le monde parle de Jésus, mais on n'écoutera pas le message qu'il a apporté. Ceux qui déclarent qu'ils croient en Dieu s'attirent des moqueries. La Bible est considérée comme un recueil de mythes, d'histoires et de contes de fées. Il en résulte qu'un nombre croissant d'adultes, et environ 30% de nos jeunes, ne se réclament d'aucune religion. Ils ne sont tout simplement pas branchés en matière de religion. Et s'ils s'intéressent si peu à la Bible, c'est parce que notre société la rabaisse et qu'on se moque d'elle. C'est là le monde dans lequel nous vivons. Beaucoup de gens considèrent qu'ils peuvent se passer de la religion, et surtout de la Bible. Et c'est pourquoi ils ne vont pas aller à l'Église. Ils vivent leur vie sans lire la Bible. Pour beaucoup de gens, la religion ne semble pas avoir d'importance. Nous voyons aussi des prophéties bibliques s'accomplir presque tous les jours. C'est incroyable ce qui s'est passé au cours des dernières années. Chaque jour semble nous apporter quelque chose d'autre dans ce domaine. Vous vous exclamerez parfois, « Mais c'est là ce dont parlait l'Écriture. Nous nous demandions depuis des années comment ces choses allaient s'accomplir. » Vous savez, avant de mourir, Dr. Meredith avait mentionné, « Je vois plus de choses se produire aujourd'hui que nous n'en avons observé pendant les 40 ou 50 dernières années. » Oui, nous qui sommes dans l'Église, nous voyons ces choses se produire, et nous pouvons les relier aux Écritures, mais le monde ne discerne pas ces choses. En conséquence, la plupart des gens n'ont aucune idée de la signification prophétique de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui semble se profiler à l'horizon. Vous savez, aujourd'hui les gens voient bien que la situation s'envenime, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Oui, les gens voient la situation qui s'envenime, mais ne comprennent pas pourquoi il en est ainsi. Ils ne bénéficient pas de la perspective que Dieu nous donne. Beaucoup de gens sont cyniques à propos de l'avenir, parce qu'ils ne voient pas de réel espoir pour l'avenir. Beaucoup ne fondent pas d'espoir en l'avenir, parce qu'ils ne comprennent pas ce que la Bible révèle sur l'avenir. Je pense que la plupart d'entre vous sont ici parce que vous comprenez ce que la Bible révèle à propos de l'avenir, et que vous voulez faire partie de cet avenir. Vous savez, comme M. Armstrong avait l'habitude de le dire au fil des ans, il y a effectivement une dimension manquante dans notre monde actuel. Dieu nous a donné une compréhension de cette dimension, mais le monde ne l'a pas. C'est pourquoi le monde d'aujourd'hui manque d'espoir. Il y a un autre fait intéressant qui s'observe dans notre monde actuel, en Amérique comme dans le reste du monde occidental. Le voici. Notre société post-chrétienne a été programmée par les médias et par Hollywood pour qu'elle rejette ou ignore la Bible, de même que Dieu, car ni les médias ni Hollywood ne vont en parler. Pourtant, beaucoup de gens trouvent les histoires et les anecdotes sur la Bible intéressantes et excitantes. Nous vivons assurément dans un monde séculier, et Hollywood le comprend. Notez cependant certains des films qui ont été produits au cours des 40, 50 ou 60 dernières années. Ainsi, dans les années 50, il y a eu ces deux films dans lesquels figurait Charlton Heston, notamment celui qui portait le nom « Les Dix Commandements », film qui a attiré beaucoup de monde et suscité beaucoup d'intérêt. Il y était question de Moïse et de ses plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, et Hollywood a eu beaucoup de plaisir à recréer ces fléaux, ce passage à travers la mer Rouge, ainsi que la remise des Dix Commandements. Quant au film Ben-Hur, il raconte l'histoire d'un jeune juif, Judas Ben-Hur, ainsi que de ce jeune Romain qui, en grandissant, avait choisi le métier de soldat. Dans leur jeunesse, ils avaient été amis, puis le sort les avait séparés, et on les retrouve finalement engagés dans une course de chars qui s'avère mortelle pour l'un d'eux. Pour ce qui est de Judas Ben-Hur, il se trouvait être à Jérusalem à l'époque où Jésus y fut jugé et crucifié. Bon, n'oublions pas que ceci est une production de Hollywood. Dans une des scènes du film, on voit Ben-Hur debout, en train de regarder Jésus qui passait en portant une croix. Puis Jésus trébuche. Un homme est alors choisi dans la foule pour porter sa croix. Et, dans le film, c'est bien sûr Judas Ben-Hur. Ce fut un film à grand succès, ce qui n'est pas surprenant, car il s'agissait de Jésus-Christ, un personnage historique. Plus récemment, il y eut cet autre film, « La Passion du Christ » de Mel Gibson, qui traitait de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Il m'est arrivé d'entendre l'interview de ce jeune homme qui jouait le rôle de Jésus dans le film. Il a avoué que cela avait changé sa vie, parce que, durant le tournage, pendant qu'on flagellait son corps avec des lanières de cuir auxquelles on avait incorporé des morceaux de métal, une de ces lanières avait manqué la planche qu'il portait dans le dos pour le protéger, ce qui était bien sûr caché à la caméra. Une de ces lanières, donc, avait réussi à l'atteindre. Le mal qu'il ressentit alors lui fit comprendre tout ce que Jésus-Christ avait accepté de souffrir pour nous. Dans un autre film, cette fois à propos de Noé, Hollywood a cependant pris de très sérieuses libertés par rapport aux Écritures. Ce film n'a rien de commun avec la réalité. Il y a eu aussi ce film d'Indiana Jones, La Dernière Croisade, qui a également été très populaire et rapporté beaucoup d'argent. C'était une fiction, certes, mais une fiction qui s'appuyait sur quelques idées tirées de la Bible. C'était un film d'action basé sur deux archéologues, un père et un fils, lesquels se lançaient dans une aventure passionnante à travers le monde. Le père était interprété par Sean Connery, un agent 007, et Harrison Ford jouait le rôle du fils, celui-là même qui avait interprété Han Solo dans la série Star Wars. C'était un film très excitant. Indiana Jones était ce jeune professeur d'université qui séduisait toutes les filles de sa classe. En fait, dans l'une des scènes du film, alors qu'Indiana Jones projette les regards sur l'une d'elles, la voici qui se met alors à cligner des yeux très lentement, et sur ses paupières on pouvait lire « Je t'aime ». Ce sont là des choses qui ont diverti des millions de personnes. Oui, elles ont diverti des millions de personnes. Mais le thème principal du film tournait autour d'Indiana Jones et de son père, un duo qui s'était engagé dans une course effrénée contre les nazis pour trouver le Saint Graal, cette coupe qui aurait été utilisée par Jésus-Christ à l'occasion de son dernier repas avec les apôtres, et si vous buviez de son contenu, cela vous procurait la vie éternelle. Ce sont là des idées et des légendes construites autour de la Bible. N'empêche que des millions de personnes se sont passionnées pour de telles histoires. Ce dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte, et c'est le thème que je veux aborder dans ce sermon, c'est que la Bible parle elle aussi d'une dernière croisade. Oui, elle parle de cette dernière croisade à laquelle vous et moi avons été appelés à participer. Et il y a des parallèles très intéressants entre ce film d'Indiana Jones et le récit biblique de cette dernière croisade. Cependant, la dernière croisade dont parle la Bible n'a pas pour but de divertir. Non, elle n'a pas pour but de divertir. Celle-ci concerne plutôt une réalité à venir à laquelle vous et moi avons été appelés à prendre part. Et cette réalité future, cette dernière croisade, va avoir un impact sur le monde entier. Oui, elle va avoir un impact sur le monde entier. Ainsi, ce que j'aimerais faire dans le sermon d'aujourd'hui, c'est examiner ce que la Bible dit à propos de la dernière croisade et pourquoi celle-ci est importante pour Dieu et importante pour le monde. Mon intention est de me concentrer sur notre besoin de comprendre notre rôle dans cette dernière croisade. Oui, nous avons besoin de comprendre notre rôle dans cette dernière croisade, car si nous ne remplissons pas notre rôle, nous pourrions perdre notre récompense. Notre étude n'aura donc rien à voir avec un film de divertissement. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet très sérieux, un thème sur lequel nous devrions concentrer toute notre attention pendant ce sabbat, y réfléchir et méditer à son sujet. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi Dieu vous a-t-il appelé à faire partie de son Église en ces temps de la fin? Est-ce que nous nous concentrons sur ce thème? Nous ne voudrons pas nous laisser envahir par l'ambiance des fêtes de ce monde pour qu'elle nous dévie de notre course et nous fasse perdre notre concentration. J'ai intitulé ce sermon « La dernière croisade, le seul véritable espoir pour le monde ». Je répète, « La dernière croisade, le seul véritable espoir pour le monde ». Tant il est vrai que nous vivons dans un monde qui n'a pas beaucoup d'espoir pour l'avenir. Parlons un peu de ce qu'est une croisade, car nous entendons souvent parler de ce terme, mais qu'est-ce qu'il signifie? Qu'étaient ces croisades d'antan? Vous savez, l'histoire n'est pas l'une des matières principales que les jeunes d'aujourd'hui étudient à l'école, mais c'est néanmoins quelque chose dont nous devrions être conscients. Une croisade est une campagne visant à promouvoir un changement social, politique, ou religieux. C'est une guerre que l'on mène afin de promouvoir un changement dans le monde, le but étant de rendre le monde meilleur, du moins selon le point de vue des croisés. Cela dit, pour ceux qui la subiront, c'est une invasion, une conquête destinée à forcer les peuples visés à faire la volonté des croisés. Au Moyen Âge, les croisades étaient des guerres de religion menées par des chrétiens européens sous l'égide de l'Église catholique. Celles-ci se sont étendues sur une période d'environ 200 ans, durant les années 1200 et 1300 de notre ère. L'idée était de libérer Jérusalem, de reprendre Jérusalem aux musulmans qui s'en étaient emparés, et de reconquérir les terres que ceux-ci avaient conquises environ 600 ans auparavant. C'était là le point de vue des croisés. Les musulmans, quant à eux, accusaient les croisés d'être des envahisseurs. Les croisades, eux, correspondaient donc à des pèlerinages menés par des chevaliers, avec des armures, des épées, des boucliers, des chevaux et des lances. On estime qu'environ 2 millions d'Européens sont morts pendant les croisades, ainsi qu'environ 1 million de musulmans. Le mot « croisade » vient du mot espagnol « cruzado », qui fait référence à une croix. Et, de fait, beaucoup de croisés arboraient une grande croix rouge sur leur bouclier ou leur tunique. Quels étaient les bénéfices qu'on retirait pour avoir mené une croisade? Il y a là un parallèle qui peut être établi avec ce qui nous est réservé. Pour les croisés, les récompenses consistaient essentiellement en l'octroi d'indulgence par le pape. Si vous partiez en croisade, vos péchés étaient pardonnés, et cela vous donnait droit à une libre entrée au paradis. De plus, en autant que vous surviviez, vous pouviez récolter gloire et fortune, du fait qu'en partant à la conquête de quelque chose, vous aviez droit à votre part du butin. Il est vrai qu'en ce qui concerne l'Église catholique, il y avait aussi ces croisades contre les hérétiques, les albigeois, les cathares et les vaudois, des gens qui reniaient les doctrines de l'Église catholique romaine et contre lesquels les papes ont lancé plusieurs croisades dans le but de les éliminer. Une croisade est donc une campagne, une bataille qui vise ni plus ni moins à changer le monde afin de le forcer à faire votre volonté. C'est le but que poursuivaient les croisés. Mais comment cette notion de croisade s'applique-t-elle à nous, les membres de l'Église de Dieu aujourd'hui? Je le répète, comment cette notion de croisade s'applique-t-elle à nous, les membres de l'Église de Dieu aujourd'hui? Eh bien, tout comme les croisés, qui avaient une mission à accomplir et qui s'attendaient à une récompense en bout de ligne, il en est de même pour nous, les membres de l'Église de Dieu en ces temps de la fin. Dieu nous a donné une mission et il nous promet une récompense. Du moins, si nous persévérons jusqu'à la fin et achevons cette mission. Voilà pourquoi nous devons rester concentrés sur cette mission et la mener à terme, sinon nous pourrions risquer de perdre notre récompense. Alors pensez-y, quelle est la mission de l'Église de Dieu? Il est intéressant d'écouter les prédicateurs protestants parler de l'objectif de l'Église. Pour certains, l'Église est en quelque sorte un hôpital spirituel qui doit prendre soin des personnes spirituellement malades. Pour d'autres, son rôle est de nourrir les pauvres, ouvrir des soupes populaires, des choses de ce genre. D'autres encore considèrent que l'Église est là pour sauver le monde, à moins qu'elle ne lance un appel pour une croisade. On pourrait citer bien des écritures. La plupart vous sont familières, et c'est pourquoi je ne les citerai pas toutes. Mais dans Matthieu chapitre 4, au verset 19, il est question de Jésus qui appelle des disciples pour leur dire « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je vais vous envoyer auprès des gens avec un message. Ce sera votre mission, c'est le but de votre appel. » Ainsi, Jésus a appelé ses disciples pour en faire des pêcheurs d'hommes. Cela dit, lorsque nous écrivons des articles, lorsque nous produisons des émissions télévisées, c'est aussi dans le but de rejoindre des gens avec nos messages. Je me souviens de ce jour où, il y a longtemps, je devais donner une conférence publique dans une université. J'avais alors demandé conseil à Dr. He pour savoir comment procéder. Il s'est contenté de me dire « Posez des questions !» Des questions qui admettent une réponse et qui amèneront les gens à réfléchir. Des questions du genre « Pourquoi êtes-vous ici ? Quel est le but de la vie humaine ? Quel est le but de l'Église ? Quelle est notre mission aujourd'hui à nous qui sommes appelés dans cette Église au temps de la fin ?» Notez que dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, Jésus dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'Église va donc continuer à exister jusqu'au temps de la fin. En quoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui? Voyez les instructions de Jésus à ses disciples dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, parlant de ceux qui sont appelés et qui commencent à suivre la voie de Dieu, il leur dit de faire des disciples de toutes les nations. Oui, faites d'eux des disciples. Enseignez-leur à vivre selon ma voie. C'est pour cela que je vous ai appelés. Pendant que vous accomplirez votre mission et que vous mènerez votre croisade, je serai avec vous. Je vous ouvrirai les portes et j'en fermerai. Je vous guiderai, je vous conduirai, en autant que vous soyez réceptifs à mes instructions. Et vous savez, telle est aussi notre mission. Effectivement, ce sont là les instructions que nous trouvons à la fin de chaque évangile. Par exemple, dans Marc chapitre 16, au verset 15, nous lisons, Marc chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ainsi, il ne suffit pas de rester assis dans nos maisons à écouter la radio ou la télévision. Il nous faut être concentrés sur une mission. Cela dit, nous n'avons bien sûr pas tous la tâche d'écrire des articles, à faire ceci ou cela, mais nos prières peuvent grandement appuyer tout ce qui se fait aujourd'hui. En notant que nous faisons chacun la part qui nous est assignée, nous suivons les instructions de Jésus dans Marc chapitre 16. Voyons aussi Acte chapitre 17, verset 6. Acte chapitre 17, verset 6 mentionne à propos des disciples qui poursuivaient cette même mission, cette croisade, qu'ils avaient mis le monde sans su dessous. C'est aussi la mission que nous avons actuellement. Redresser le monde en expliquant un message que le monde ne comprend pas et, bien souvent, ne veut même pas entendre. Voilà donc quelle est notre mission, notre feuille de route. Dressons la liste des étapes à suivre pour l'accomplir. Premièrement, il nous faut aller dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. Je le répète, il nous faut aller dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. Deuxième point, il nous faut avertir le monde des conséquences du péché, de ce qui arrive lorsqu'on ignore Dieu et qu'on se détourne de lui, ce qui est précisément ce que nous faisons aujourd'hui, voir Matthieu chapitre 24. Il en est ainsi parce qu'on s'imagine que c'est sans importance, vu que la religion n'est plus considérée d'actualité. Mais vous savez, il y a un Dieu, et il va bientôt intervenir pour faire arriver ces choses dont parle la Bible. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 58, verset 1, nous dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, annonce à mon peuple ses iniquités et ce qui va leur arriver s'ils persistent dans leur voie. » Voilà qui fait partie de notre mission aujourd'hui, et il nous faut rendre cela clair et net. Venons-en maintenant à notre troisième point. Il nous faut préparer un peuple pour le Seigneur. Voir Luc chapitre 1, verset 17. Oui, nous devons préparer un groupe de personnes, nourrir le troupeau de Dieu, et ainsi préparer des dirigeants et des enseignants pour le royaume de Dieu à venir. C'est pourquoi nous sommes ici le jour du sabbat. C'est aussi pourquoi nous avons des études bibliques, pour passer en revue les enseignements de base des Écritures, ainsi que ses principes fondamentaux. Pour le moment, vous êtes peut-être assis dans votre groupe particulier et vous écoutez quelqu'un qui prêche. Mais savez-vous, un jour, ce sera votre tour de prêcher. Serez-vous prêt alors? Nous devons l'être. Nous devons donc nous préparer. Certains vont peut-être dire, « Mais je ne veux pas être un prédicateur. » Écoutez, vous avez été appelé pour devenir un roi, un sacrificateur, un enseignant, un leader, un serviteur. Voilà la raison de votre appel. Vous ne pouvez pas faire comme Jonas et vous enfuir. Il n'y aura peut-être pas de grands poissons pour vous ramener à l'ordre. Comprenez bien que Dieu nous a appelés et choisis dans un but précis, faire partie de son Église, une Église qui a une mission. Simultanément, Jésus nous a aussi avertis que nous allons devoir faire face à une véritable résistance. Jean chapitre 15 verset 20 dit en effet, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Donc, notre mission ne sera pas facile. Vous allez devoir faire preuve de persévérance et de courage pour faire ce que vous devez faire, car il faut que le travail s'accomplisse. Le thème de notre sermon est celui d'une dernière croisade. Notez que Paul utilise une terminologie similaire. Lui parle d'une armée. Notez-le dans Éphésiens chapitre 6, au verset 11 à 18, où il énumère ce qu'il nous faut pour bien remplir notre mission, à présent que nous avons été recrutés par Dieu. Voyons donc. Éphésiens chapitre 6, et commençons par le verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » C'est ce que faisaient les chevaliers quand ils partaient en croisade. Ils revêtaient leur cuirasse, ils mettaient leur casque. Et remarquez ce que Paul dit ici. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Oui, Satan ne veut pas que cette croisade continue. Il fera tout ce qu'il peut pour s'y opposer. Il fera tout ce qu'il peut pour vous distraire et vous décourager. Continuons versets 12 à 14. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Oui, la vérité est ce qui fait notre force. La vérité est ce que nous avons été appelés à proclamer. Poursuivons. Revêtez la cuirasse de la justice. Une cuirasse protège votre poitrine, elle protège votre cœur. En ce qui concerne les commandements de Dieu, il nous faut vouloir vivre selon eux, être déterminés à vivre selon eux. Bon, je vous laisse lire le reste de ce passage. Imaginez à présent un groupe de chevaliers avec leurs armures, leurs chevaux, leurs lances, leurs épées et leurs boucliers. Ils sont partis pour livrer une bataille. Vous savez, nous avons aussi été appelés pour livrer des batailles. Et ces batailles vont souvent se dérouler entre nos deux oreilles. C'est en effet ainsi que Satan travaille sur nous. Il essaiera d'éparpiller nos esprits dans différentes directions, de nous décourager par des épreuves et des tribulations. C'est pourquoi Paul dit de revêtir toute l'armure de Dieu, comme des croisés, car nous avons des batailles à mener contre le diable et ses forces. Nous allons diffuser nos émissions sur certaines chaînes de télévision, et certains responsables, après avoir reçu les complaintes provenant de quelques téléspectateurs, vont alors juger préférable de nous couper pour ne plus s'attirer de telles critiques. Nous serons donc confrontés à de l'opposition, et devrons trouver comment faire ces choses de la manière la plus efficace possible. La mission de l'Église de Dieu et le but de notre croisade consiste à proclamer la venue du royaume de Dieu. Comme vous pouvez vous l'imaginer, cela représente un réel défi dans un monde gouverné par Satan. Ça ne sera pas facile. Nous allons devoir faire preuve d'ingéniosité et d'une certaine dose de ténacité. Nous avons un travail à faire, une croisade à mener et une bataille à livrer. Nous avons une mission à accomplir. Mais quel est le message qu'il nous faut proclamer? Qu'a prêché Jésus-Christ? Si nous revenons en arrière, à l'époque où l'Église se désagrégeait, et je veux parler ici de l'Église universelle, il y avait alors eu un grand débat à propos de ce que devait être au juste l'Évangile. Je me souviens d'en avoir parlé avec une personne qui avait étudié au collège avec moi. Nous étions au Texas à l'époque, et je lui avais demandé, « D'après toi, c'est quoi l'Évangile ?» Il m'a répondu, « Eh bien, cela concerne la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. » Sa réponse m'a quelque peu surpris. Il est vrai qu'il y a ce passage, dans 1 Corinthiens chapitre 15, qui semble conduire à une telle conclusion. Mais n'y est-il pas en premier lieu question de résurrection ? Cependant, que dit Marc au chapitre 1 à propos du but dans lequel Jésus-Christ est venu sur terre? Quel était le message qu'il est venu prêcher? N'oublions pas qu'à la fin de Matthieu chapitre 28, Jésus nous commande d'observer tout ce qu'il nous a prescrit. Or, dans Marc chapitre 1, au verset 14 et 15, il est clairement énoncé pourquoi Jésus est venu sur terre. Voyons-le. Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il venait à eux en tant que représentant de ce royaume, les enjoignant de se repentir, de changer leur façon de vivre. Souvent les gens se feront dire, « Ah, récitez simplement une petite prière et dites à Jésus que vous l'aimez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Cela vous donnera accès au paradis. » Jésus, quant à lui, nous dit, « Repentez-vous, changez votre façon de vivre, commencez à observer le sabbat, commencez à observer les jours saints, commencez à prendre une nouvelle direction. Vous ne pouvez plus observer le dimanche, vous ne pouvez plus observer Noël. Vous devez apporter des changements à votre vie. C'est cela, se repentir. Il faut changer. » Notre pays donne l'impression de sombrer aujourd'hui, et c'est ce qui va se produire à moins que nous ne nous repentissions, à moins que nous réalisions que nos voies ne mènent nulle part. Tous, jeunes ou vieux, nous sommes sujets à des tentations. On se dira, « Oh, quel mal y a-t-il à participer à ceci ou cela ?» Et puis, pourquoi ne pas me réjouir un peu avec ces gens qui ont du bon temps à cette époque de l'année ? Eh bien non, il nous faut sortir de ce monde, nous en séparer, si nous voulons un jour lui enseigner un mode de vie différent. Nous devons accepter de le faire, car sinon, pourquoi sommes-nous ici? À cela, certains répondront, « Parce que mes amis sont ici. » Écoutez, si vos amis décidaient d'aller ailleurs, les suivrez-vous là aussi aveuglément? Nous ne devons pas nous éparpiller. Il nous faut laisser le monde derrière nous. Mettons-nous plutôt à partager avec le monde la vérité de Dieu, ce que l'avenir nous apportera. Quand on comprend ce que l'avenir nous réserve, cela doit nous remplir d'espoir. Évidemment, si vous contemplez le monde tel qu'il est actuellement, il y a peu de raisons d'être positif. C'est parce que nous poursuivons la mauvaise route. C'est pourquoi, en venant, Jésus est venu prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Par ailleurs, de quoi Jésus parlait-il avec ses disciples après sa crucifixion et sa résurrection? Voyons à ce propos Actes chapitre 1, verset 3, où Luc donne ce témoignage à une autre personne. Actes chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voilà de quoi Jésus parlait avec ses disciples après la résurrection, des choses concernant le royaume de Dieu. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» À nouveau, ils étaient concentrés sur la venue du royaume de Dieu. L'Évangile concerne la venue du royaume de Dieu. Les disciples voulaient savoir si Christ allait rétablir le royaume de Dieu dès maintenant, à leur époque. Dans Matthieu chapitre 19, au verset 28 et 29, Jésus parle à ses disciples juste avant sa mort et leur dit, Matthieu 19, versets 28 et 29, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voilà quelle sera votre récompense. Voilà pourquoi je vous ai appelé. C'est pour cela que je vous prépare. Ainsi, chacun d'eux sera en charge d'une tribu en Israël. Mais il y aura aussi quelqu'un établi sur Charlotte, quelqu'un d'autre établi sur Kansas City, quelqu'un d'autre sur Washington, quelqu'un d'autre sur Haïti. » Entre parenthèses, nous étions à Haïti il y a quelques années, et j'avais lu plusieurs livres avant d'y aller. L'un d'eux parlait de l'histoire d'Haïti, dont on dit qu'elle a été écrite avec du sang. C'est parce que, lorsque les choses s'enveniment là-bas, ils sortent leurs machettes. Nous avions près d'une douzaine de personnes d'Haïti dans notre congrégation de Boston, des gens très gentils, très chaleureux, mais des turbulences peuvent parfois se produire, et cela peut aussi arriver dans bien d'autres pays. D'ailleurs, n'avons-nous pas vécu cela à Seattle, ainsi que dans certaines autres villes de notre pays? Vous savez, ce monde est de plus en plus rempli de violence, tout comme à l'époque de Noé. C'est ce à quoi nous devons nous attendre, alors que les nations commencent à s'effondrer. Certes, les disciples étaient encore charnels à cette époque-là, mais ils avaient hâte de s'asseoir sur des trônes et de juger les 12 tribus d'Israël. De plus, ils avaient entendu Jésus qui leur annonçait qu'ils allaient aussi hériter de la vie éternelle. Je vous avouerai franchement que, lorsque j'étais adolescent, la vie éternelle ne m'intéressait pas. Je voulais simplement vivre et expérimenter la vie. Mais, en vieillissant, quand on se regarde dans le miroir, on ne reconnaît pas toujours celui qui nous fait face. Il nous manque peut-être quelques dents ou quelques cheveux. C'est alors que le concept de vie éternelle gagne en intérêt. J'ai participé récemment à une réunion d'anciens élèves et la question que chacun se posait alors était « Vais-je reconnaître tel ou tel copain d'autrefois ou vais-je devoir me résigner à m'informer du nom de celui qui est en face de moi ?» C'est parce que nous changeons en vieillissant et j'avoue que je n'ai pas reconnu certains de ceux avec qui j'avais pourtant partagé plusieurs années de ma vie au lycée. À quoi allons-nous ressembler lorsque nous hériterons de la vie éternelle? Peut-être que nous retrouverons la belle apparence que nous avions à une certaine époque, si tel était le cas. Cela va être intéressant, c'est sûr. C'est là l'avenir que les disciples anticipaient avec impatience. Ils n'étaient pas rebutés par l'avenir. Ils s'y préparaient mentalement. Pour eux, cela représentait une époque passionnante. De nos jours, peu de gens ont une perspective aussi euphorique de l'avenir. Quand ils voient ce qu'il se passe, ils veulent disparaître. Ils ne veulent plus vivre dans ce monde. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 21 à 23, Jésus informe ses disciples de sa mort prochaine. Pierre s'objecta alors disant, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, répondit, « Arrière de moi, Satan !» Il voulait qu'on comprenne qu'il était venu dans un but précis, qu'il avait une mission à accomplir. Mais voyez comment Satan avait essayé de travailler sur Jésus à travers Pierre. Ailleurs, dans Jean chapitre 14, au verset 1 à 3, Jésus avait annoncé à ses disciples, Jean chapitre 14, verset 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble point. « Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ici, au quartier général de l'Église, nous avons divers locaux pour nos différents départements et différentes personnes dans ces départements. Christ dit que ce sera comme cela dans le royaume. Nous aurons tous différentes responsabilités, différents rôles à jouer, et il précise, « Je vais préparer une place à chacun d'entre vous. » Jean chapitre 15, verset 16 dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » Bon, c'est peut-être vos parents qui l'a choisi au départ. Et vous êtes ici avec eux. Vous avez ainsi l'opportunité d'hériter exactement de ce qu'ils vont hériter. Vous ne voudrez donc pas renoncer à ces choses. Comprenez bien que vous bénéficiez là d'un appel très spécial, une opportunité sans pareil, que les enfants avec qui vous êtes à l'école n'ont pas. Leur temps viendra plus tard. De même, vos voisins sont peut-être des gens bien, mais eux aussi seront appelés plus tard. Vous, c'est maintenant. Alors, ne lâchez pas, ne le prenez pas à la légère. Douglas MacArthur avait reçu l'ordre de quitter les Philippines alors que les Japonais s'apprêtaient à l'envahir. Et, de fait, ils ont tout occupé. Mais, une fois arrivé en Australie, MacArthur a promis de revenir, donnant ainsi de l'espoir à ces gens des Philippines. Nous aussi avons un espoir fondé sur la promesse que Jésus-Christ nous a faite en disant qu'il allait revenir. Il y a quelque temps, alors que j'étais en compagnie de Bruce Tyler, j'ai pu visiter l'île où les troupes de MacArthur avaient débarqué. On y trouve de grandes statues de MacArthur et de son état-major, des statues plus hautes que nature, et placées au beau milieu d'un plan d'eau. Vous y êtes accueillis par un Philippin ayant un bon sens des affaires, et celui-ci offrira de vous louer des bottes en caoutchouc et un casque, le but étant de vous prendre en photo dans ce décor, moyennant la somme modique $1. J'ai accepté son offre, bien sûr, mais il fallait marcher prudemment, car si on avançait trop vite, l'eau pénétrait par le haut des bottes, qui n'était qu'à 2 ou 3 centimètres au-dessus du plan d'eau. J'ai encore la photo dans mon bureau. C'était quelque chose de se tenir là, tout en pensant à toutes ces choses qui s'y étaient déroulées jadis. Cette déclaration que le général MacArthur leur avait faite en ce temps-là, cette promesse qu'il allait revenir, avait donné de l'espoir à ces gens. Il devrait en être de même pour nous lorsque nous considérons celle que Jésus-Christ nous a faite. Avons-nous foi en ce que dit la Bible? Jésus y déclare, « Je vais vous préparer une place, et je reviendrai. Je veux que vous soyez prêts, et je veux que vous accomplissiez la mission que je vous ai confiée. » Oui, il veut que nous accomplissions la mission qu'il nous a confiée. Frères et sœurs, c'est ça l'Évangile. Jésus a dit à ses disciples, « Vous allez devenir des rois et des sacrificateurs dans le royaume de Dieu à venir, des leaders civiques, des leaders religieux. C'est pour cela que je vous ai appelé. Vous aurez à orienter le monde dans une direction très différente. Vous allez régner sur cette terre et non dans les cieux. » Voir Apocalypse chapitre 5, verset 10. Lorsque j'étais un enfant, j'entendais dire que nous marcherions dans des rues en or, là-haut, dans le ciel, et qu'il se produirait toutes ces choses fabuleuses. Et je n'arrêtais pas de penser, « Quoi? Je vais marcher sur un nuage et m'asseoir là-dessus? » Je trouvais cela invraisemblable. « Comment vais-je faire pour ne pas passer à travers ces nuages? Ils ne pourront pas me retenir. » Franchement, cela me semblait farfelu, et je n'étais pas du tout intéressé à l'idée d'aller au paradis. Je voulais plutôt goûter à ce que ce monde m'offrait maintenant. Cela dit, Jésus-Christ nous dit que nous allons régner avec lui sur cette terre. Nous allons reconstruire les villes. Nous allons restaurer la terre. Cela va être excitant. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 4 annonce que la loi va sortir de Jérusalem. Nous aurons l'occasion de partager la voix de Dieu avec le monde entier. Oui, le monde entier aura les regards tournés vers Jérusalem. J'ai grandi dans une église presbytérienne où on ne m'a jamais lu ces écritures. Il n'y était question que d'aller au paradis. Eh bien non, c'est vers Jérusalem que le monde entier va alors se tourner, et nous y serons nous-mêmes. À l'heure actuelle, beaucoup d'entre vous travaillez ici à Charlotte, au quartier général de l'Église, même si certains ont aussi à voyager par moments. Tout cela est peut-être très excitant, très stimulant, mais pas toujours exempt de difficultés. Ésaïe chapitre 9, versets 6 et 7 annonce que Christ reviendra pour mettre en place un gouvernement qui va apporter la paix et la justice au monde entier. Nous voyons aujourd'hui un tas de gens qui s'affairent et qui se mobilisent pour établir une justice sociale. Ils veulent sauver ceci, faire cela, changer ceci, changer cela, mais c'est peine perdue, ça ne marchera pas. Nous, par contre, avons été appelés à faire partie d'un gouvernement qui va littéralement changer le monde. C'est notre croisade. C'est ce que nous allons faire. Ce sera une bataille, mais cela va être très excitant. Ésaïe chapitre 35 parle de la façon dont l'environnement va être totalement restauré. Les déserts vont fleurir comme des roses. Les gens vont être guéris. Les gens vont être en bonne santé. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils voient que le monde s'en va à la dérive. Ils ne veulent plus avoir d'enfants pour peupler la terre et créer davantage de dioxyde de carbone et de déchets. Selon eux, la solution, c'est de ne plus procréer d'enfants. C'est terrible. Ils se laissent tromper. Beaucoup manquent d'espoir. Pourtant, de tous les peuples, ne devrions-nous pas, nous qui sommes ici, nourrir un espoir grandissant quant à l'avenir? Citons encore ces quelques autres écritures. Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 18, dit qu'à la dernière trompette, Jésus-Christ reviendra comme roi des rois, que les saints seront récompensés et que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Votre récompense sera une couronne et la vie éternelle. Une couronne est un symbole du pouvoir, de leadership. Chacun d'entre nous en aura une, avec notre nom gravé dessus. Elle nous sera remise si nous accomplissons notre mission et si nous persévérons jusqu'à la fin. Nous en reparlerons un peu plus tard. Les saints vont donc être récompensés. Tournons-nous à présent vers Actes chapitre 3, au verset 19 à 21. Monsieur Armstrong avait l'habitude de se référer à de tels passages, de même qu'à un autre ensemble de versets clés dans la Bible. Ils sont la base de l'espoir que nous recherchons tous. Actes chapitre 3, versets 19 à 21. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, autrement dit, changez, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » J'étais en Arkansas la fin de semaine dernière. C'est au sud-ouest du Missouri. Vraiment une très belle région. C'était très rafraîchissant d'être loin des villes. Il faisait soleil et il n'y avait pas trop de monde. Vraiment une belle scène de campagne. C'est très rafraîchissant de vivre une telle expérience. À nouveau, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est ce que Christ fera à son retour. Tout restaurer, notamment l'environnement. En effet, ce ne sont pas les guerriers sociaux qui vont accomplir cela, pas plus que nos législateurs au Congrès ou ces manifestations pour l'environnement. Oh, ils peuvent peut-être faire un pas dans la bonne direction en tentant de le faire, mais cela ne donnera rien, ce ne sera pas suffisant. Christ reviendra donc pour nous apporter ce temps de rétablissement de toutes choses. Ce dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Nous parlons ici d'Ésaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel. Il n'y a là rien de nouveau. Il nous reviendra de continuer. Mentionnons encore quelques autres versets. Jean chapitre 4, verset 42, dit que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. C'est en lui que nous fondons notre espoir pour un avenir meilleur. Jésus-Christ reviendra en tant que sauveur du monde. Son gouvernement, composé d'individus qu'il appelle et forme en ce moment, va restaurer la terre et ramener les choses à la normale, à ce qu'elles devraient être. Mais surtout, encore une fois, il reviendra en tant que sauveur du monde. Daniel chapitre 2, verset 44, parle de cette époque où Jésus-Christ mettra un terme au règne des rois païens pour établir un gouvernement et un royaume qui n'aura pas de fin. Une époque dont nous approchons à grands pas. Oui, c'est une époque qui est proche maintenant. Pour un dernier verset, tournons-nous vers Daniel chapitre 7, verset 27, où il est question des saints qui vont posséder le royaume. Oui, des saints qui vont alors posséder le royaume. Ce sera là notre récompense. Que diriez-vous de travailler avec quelques-uns de vos amis pour restaurer une certaine partie du monde? Je m'étonne toujours de voir ces idées qui germent dans l'esprit de nos membres à la suite de nos fins de semaine familiales. Je trouve cela très encourageant, très excitant. Je pense que nous avons dernièrement ramené certaines idées de Kansas City et j'ai hâte de les voir aboutir. Ainsi, ce sera merveilleux de travailler ensemble avec des amis pour changer le monde, pour indiquer au monde la bonne voie à suivre. Ce sera très gratifiant, très excitant que de pouvoir nous concentrer sur ces choses. Cependant, frères et sœurs, le monde ne partage pas cet espoir. Non, il ne partage pas cet espoir. Les gens capitulent, ils ne veulent pas d'enfants, ne se marient pas, se droguent et tout le reste, parce qu'ils n'ont pas d'espoir en l'avenir. Vous qui êtes ici, j'espère que vous vous enthousiasmez pour l'avenir. Certains parmi nous qui ont grandi dans l'Église vont parfois nous quitter, au moins temporairement, parce qu'ils veulent explorer ce qu'il y a de l'autre côté de la clôture. Ils vont se salir les doigts pour tenter de satisfaire leur curiosité. Pourtant, il n'y a rien d'alléchant là-bas. Non, ça n'en vaut pas la peine. D'accord, cela peut paraître scintillant au premier abord. Ça a l'air excitant. Mais, un bon conseil, résistez à cette tentation, car vous reviendrez tôt ou tard avec des bleus et des éraflures. Je me souviens d'avoir parlé un jour avec une personne d'un certain âge qui a fait une telle expérience et qui m'a alors confié « Doug, parfois les gens vont s'enfoncer dans un trou si profond qu'ils ne s'en sortiront jamais dans cette vie. Vous savez, en Afrique et ailleurs dans le monde, nous avons des frères qui n'ont littéralement rien, mais leur espoir est dans le royaume de Dieu à venir, parce qu'ils n'ont présentement rien qui ressemble au royaume de Dieu. Même ici, aux États-Unis, il y a des gens qui n'ont littéralement rien, pas même un logement. L'autre jour, j'ai vu un homme qui tenait un panneau où on lisait « Pas de famille, pas de maison, rien. » Il était assis sur un terrain de stationnement. Eh bien, le jour viendra où nous pourrons remédier à ce genre de situation. Mais d'ici là, il nous faudra fidèlement achever notre mission. Et celle-ci consiste, encore une fois, à prêcher l'Évangile, à l'instar de Jésus-Christ et des apôtres. Cet Évangile est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle d'un royaume de Dieu à venir. Les saints vont posséder ce royaume et apporter la paix et la justice au monde. Le véritable Évangile n'est pas synonyme de morosité et de malheur. Le véritable Évangile ne concerne pas le crime, la corruption et tout ce qui remplit les médias du monde d'aujourd'hui. C'est un évangile d'espérance qui parle d'un avenir réel qui va vraiment voir le jour. Et il pourrait arriver plus tôt que beaucoup d'entre nous ne se l'imaginent. Combien de temps Dieu va-t-il encore tolérer ce qui se passe avant de tirer la prise? Deutéronome chapitre 28, verset 20, dit que la chute va arriver soudainement. C'est pourquoi nous devons être prêts. Oui, la chute va arriver soudainement, donc tenez-vous prêts. Voilà le message que nous devons délivrer au monde, un message à propos duquel il ignore tout. C'est la mission de l'Église, le message associé à cette dernière croisade. Vous savez, je n'ai pas inventé tout ça, c'est dans le livre. Les disciples avaient demandé à Jésus, « Quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps ? Comment pourrons-nous savoir que nous sommes proches de la fin ?» Eh bien, l'un des signes marquants se trouve dans Matthieu chapitre 24 au verset 14, où il est question de cet évangile du royaume dont nous venons de parler, un évangile qui sera prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. C'est là la mission de notre croisade, prêcher dans le monde entier cet évangile du royaume de Dieu en tant que témoignage. C'est intéressant. Certaines personnes ont dit dans le passé que c'est à Dr. Meredith qu'il revient de prêcher l'évangile. Nous nous contentons de nourrir le troupeau de Dieu. Non, à nouveau, la mission de notre croisade consiste à prêcher cet évangile du royaume de Dieu dans le monde entier en tant que témoignage, et ce n'est qu'après cela que la fin viendra. Notre tâche est de mettre le monde à l'endroit, tout comme les apôtres avaient été accusés de mettre leur monde à l'envers, un monde qui était alors tout imprégné de paganisme. Frères et sœurs, nous menons actuellement cette dernière croisade dont parle la Bible. Vous et moi avons été appelés à jouer un rôle dans cette croisade. Notre mission est d'apporter la dimension manquante à ce monde moderne, de lui fournir un avertissement et un message d'espoir. C'est un appel incroyable. C'est une opportunité incroyable. Jadis, les gens se lançaient dans des croisades parce qu'ils voulaient libérer la Terre Sainte. Ils voulaient libérer Jérusalem pour des raisons matérielles. Nous avons été appelés à faire partie d'une croisade qui va littéralement changer le monde en préparant la voie pour le retour de Jésus-Christ. Cela nous concerne, vous et moi. Regardez autour de vous, nous ne ressemblons pas à des croisés, nous n'avons pas de chevaux, mais nous avons été appelés à devenir des croisés et à changer ce monde, à le transformer en ce merveilleux monde à venir qui est prophétisé. Posons-nous encore ces quelques autres questions. Qu'est-il arrivé à l'évangile que Jésus-Christ prêchait? Et pourquoi cette dernière croisade que nous menons aujourd'hui est-elle si importante? Vous savez, Paul s'occupait de certaines choses à son époque et nous nous occupons de ces mêmes choses aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 11 versets 2 à 4 parle des préoccupations de Paul à son époque. Voyons-le. 2 Corinthiens chapitre 11 versets 2 à 4. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, arrêtons-nous là. Vous savez, vous pouvez rendre visite à n'importe laquelle de nos congrégations à travers le monde et vous y rencontrerez le même esprit. Inversement, allez dans d'autres églises, qu'elles soient catholiques, protestantes ou autres, l'esprit sera différent. Oh, il se peut qu'il y ait là des gens sympathiques, mais l'esprit y sera différent. Paul parle ensuite d'un évangile différent. Ce qu'il veut dire par là, c'est que dans ces autres églises, on aura ce concept d'aller au ciel. On insistera sur le fait d'aimer Jésus, mais il ne sera pas fait mention de cet évangile à propos du royaume de Dieu à venir, lorsque Dieu va gouverner sur cette terre par l'intermédiaire de Jésus-Christ, ce qui constitue un évangile très différent. Ensuite, Paul enchaîne au verset 13 à 15 disant « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Ainsi, Satan a des ministres. Cependant, la plupart des ministres dans ces autres églises ne le reconnaissent pas, même si, selon moi, la plupart sont probablement sincères. Je me souviens d'avoir parlé à un jeune homme il y a quelques années, alors que je revenais d'Angleterre. C'était un ministre baptiste qui était venu nous rendre visite ici à Charlotte. Il m'avait alors confié qu'il s'efforçait de prêcher nos doctrines, mais qu'il ne pensait pas pouvoir le faire bien longtemps, de peur de perdre son emploi. Je ne sais pas ce qu'il est devenu par la suite, car je ne l'ai pas revu. Mais il se sentait en quelque sorte comme pris entre le marteau et l'enclume. Cela dit, il y a quantité de faux ministres qui ne reconnaissent pas ce qu'est la vérité, et la Bible les appelle des ministres de Satan. C'est là un langage qui provoque, et ce n'est pas quelque chose que les gens aiment entendre, mais c'est ce dont parle la Bible. Paul a donc parlé des faux ministres de son époque. Dans Galates chapitre 1, au verset 6 à 9, le même Paul condamne en tant qu'anathème ceux qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il y avait alors des adeptes du judaïsme qui répandaient un évangile différent, un évangile selon lequel on devait être circoncis avant de pouvoir devenir un chrétien véritable. Paul qualifiait cela de faux évangile. Edward Gibbon était un critique du christianisme qui vivait vers la fin des années 1800. Il n'était pas un fan du christianisme, mais dans son ouvrage sur l'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, parlant des croyances de l'Église primitive, il a fait cette déclaration au chapitre 15, et je cite, « La doctrine ancienne et populaire du millénium, le règne de 1000 ans des saints, était intimement liée à la seconde venue du Christ. » C'est exactement ce dont nous parlions tantôt. Il poursuit disant, « Le Christ, avec une bande triomphante de saints et d'élus qui avaient échappé à la mort ou qui avaient été miraculeusement ressuscités, régnerait sur la terre jusqu'au moment fixé pour la dernière résurrection générale. Ces gens subissaient alors les persécutions des Romains qui occupaient leur pays à l'époque. » Continuons. Cet espoir était si agréable à l'esprit des croyants que la nouvelle Jérusalem, germe de ce royaume bienheureux, fut rapidement parée de toutes les couleurs les plus gaies de l'imagination. L'assurance d'un tel millénaire a été soigneusement inculquée par une succession de pères, depuis Justin Martyr jusqu'à Irénée, et, notons-le, avant par Pierre, Jacques et Jean, et même avant eux par Jésus-Christ. Continuons. Bien qu'elle ne soit pas universellement reçue, en effet tout le monde ne va pas croire ou aimer cette doctrine, elle semble avoir été le sentiment dominant des croyants orthodoxes, et elle semble si bien adaptée aux désirs et aux appréhensions de l'humanité qu'elle, cette croyance au royaume de Dieu, a dû contribuer dans une très large mesure au progrès de la foi chrétienne. Fin de la citation. C'est effectivement ce qui a contribué à la croissance de l'Église primitive. Pourquoi beaucoup d'entre vous ont-ils quitté d'autres églises pour venir dans l'Église de Dieu? C'était probablement à cause de la doctrine et des enseignements sur la venue du royaume de Dieu. Vous vouliez en être partie prenante, du moins je l'espère. C'est pourquoi je suis ici moi-même. C'était passionnant. C'était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Edward Gibbon poursuit disant, « Lorsque l'édifice de l'Église fut presque achevé, le support temporaire, c'est-à-dire l'enseignement sur le royaume de Dieu, fut mis de côté. La doctrine du règne de Christ sur terre fut d'abord traitée comme une profonde allégorie, autrement dit, ce n'est qu'une histoire que nous ne comprenons pas entièrement, puis elle fut considérée par degrés comme une opinion douteuse et inutile, et finalement rejetée comme l'invention absurde de l'hérésie et du fanatisme. C'est cela qui est arrivé à l'évangile du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, parce que tout cela a été perdu et qu'il nous a été donné de délivrer un message sur la venue d'un royaume de Dieu, sur des solutions aux problèmes qui se produisent dans le monde. Et vous allez avoir l'occasion de partager ces solutions avec d'autres. Le monde a vraiment besoin d'entendre le véritable évangile, et c'est là le message de notre croisade. Pourquoi le monde ne peut-il pas comprendre la raison pour laquelle notre société connaît tant de problèmes, alors qu'il vous est possible de le comprendre? C'est parce que vous comprenez certaines écritures clés. Ainsi, Apocalypse chapitre 12, verset 9 dit que « Satan a séduit le monde entier, notamment les églises de ce monde et les gouvernements de ce monde. » Il y a quelque temps, je tombais sur un livre intitulé « Sept hommes qui dirigent le monde depuis la tombe ». Je répète, « Sept hommes qui dirigent le monde depuis la tombe ». Il y a question de Darwin, de Freud, de Marx, de John Dewey et de quelques autres. Ce sont des personnes qui ont vécu à la fin des années 1800 et au début des années 1900, et leurs idées ont fait du monde d'aujourd'hui ce qu'il est. Pourquoi nous sommes dans le socialisme? Pourquoi nous ne croyons pas en Dieu? Pourquoi nous ne sommes pas enthousiasmés par la Bible? Cela vous donne un aperçu de ces individus que Satan a trompés, et leurs idées ont trompé le monde et l'ont orienté dans une direction très différente. Ainsi, Satan a trompé le monde entier. Il serait bon que vous lisiez 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9, pour être convaincu que le but de Satan est de détruire et de tromper les individus, les églises et les nations. Il veut contrecarrer le plan de Dieu et stopper l'œuvre. C'est là son but. Et nous devons veiller à ne pas nous laisser entraîner dans son jeu. Certaines personnes nous ont quittés disant « Je ne suis pas d'accord avec ces décisions de l'Église. Je vais m'en aller et partir la mienne. » Toutes ces divisions ne font que nuire à notre efficacité. Et comme M. Armstrong l'a souligné à maintes reprises dans le passé, il est intéressant de noter que ceux qui quittent l'Église pour fonder leur propre organisation n'aboutissent finalement pas à grand-chose. Oui, ils n'aboutissent pas à grand-chose. C'est effectivement ce que j'ai pu constater moi-même depuis les 55 ans que je suis impliqué dans l'Église. Je pourrais vous montrer une liste d'environ 20 personnes qui ont quitté l'Église au fil du temps, et elles n'ont, pour ainsi dire, pas accompli grand-chose. Tout cela est conforme au plan de Satan, et si nous ne restons pas sur nos gardes, nous allons nous aussi tomber dans tel ou tel panneau de sa conception. Il avait commencé dès le début en séduisant Ève dans le jardin d'Éden. Quant à Adam, il a suivi pour maintenir la paix dans la famille, et cela a continué, car tous les êtres humains ont pris ce mauvais chemin. Satan a également travaillé sur David dans l'affaire de Bathsheba. Il a aussi travaillé sur Pierre lorsque ce dernier voulut employer la force pour se porter à la défense de Jésus, ce qui amena cette riposte désormais célèbre de Jésus « Arrière de moi, Satan !» À nouveau, le but de Satan est de perturber le plan de Dieu, de faire dévier le peuple élu de sa mission. Dieu a choisi les Israélites pour être une lumière et un exemple pour le monde. Il leur a donné son livre, la Bible, mais celui-ci a été mis de côté. Pour sa part, Jéroboam a commis de grandes fautes lorsqu'il a apporté des changements au jour saint, et peut-être même au sabbat, faisant ainsi pécher le peuple d'Israël. Nous devons faire attention à ne pas nous laisser entraîner dans de telles voies. Vous savez, Satan est toujours actif aujourd'hui. Certes, il s'en est pris à David, à Pierre, à Judas, mais il s'en prend pareillement aux gens de notre époque. Oui, il y en a qui ont quitté l'Église à propos de la controverse générée par les cantiques ou par le port du masque. Ces choses divisent. Certains vont quitter l'Église parce qu'ils se disent offensés par ceci ou cela. Ne tombez pas dans de tels pièges. Ne vous laissez pas arracher votre couronne par qui que ce soit. Ne dites pas non plus « Je ne vais pas m'asseoir ici, je vais plutôt m'asseoir là-bas, car je n'aime pas cette personne qui est là. C'est malsain. » Frères et sœurs, nous avons une mission. Concentrons-nous sur elle. Quelles sont les exhortations que la Bible nous adresse à nous qui vivons à la fin de l'âge? Je le répète, quelles sont les exhortations que la Bible nous adresse à nous qui vivons à la fin de l'âge? 2 Timothée chapitre 3 annonce que, dans les derniers jours, des temps terribles vont survenir. Il y aura des blasphémateurs, des gens qui se moqueront de la Bible, qui se moqueront de Dieu et qui se moqueront du mode de vie qu'ils prônent. Vous savez, lorsque la Worldwide Church of God, c'est-à-dire l'Église universelle, s'est effondrée, on a dit aux gens « Oubliez le plan de Dieu, il n'y a pas de tel plan ». Pourtant, n'avions-nous pas enseigné pendant des années que les jours saints représentent le plan de Dieu? Mais voilà que les gens se faisaient dire qu'il n'y a pas de tel plan. On leur a aussi donné une nouvelle définition de l'Évangile. Apocalypse 12, versets 9 à 17, dit qu'à la fin de l'âge, Satan sera en colère. Son temps est court, il le sait, et il persécutera l'Église et s'efforcera de perturber l'œuvre. Malgré tout, il nous est commandé dans 2 Timothée chapitre 4 de prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non, de prêcher l'Évangile et de continuer l'œuvre. C'est l'exhortation que Paul nous a adressée juste avant de mourir. Apocalypse chapitre 3 versets 8 à 13 parle de l'ère philadelphienne de l'Église. Il y est dit que si nous persévérons et continuons à accomplir l'œuvre, nous allons être protégés durant la grande tribulation. Apocalypse 11 versets 15 à 18 dit que Christ va revenir et que les saints vont être récompensés. Apocalypse 17 verset 14 parle des appelés. Vous avez été appelés, des élus. Vous avez été choisis pour être dans l'Église aujourd'hui, et des fidèles. Oui, de ceux qui ont continué à faire ce que Jésus-Christ leur a demandé de faire, à savoir d'aller dans le monde entier et d'y prêcher l'Évangile. Si vous continuez à faire cela, vous aurez votre cœur dans l'œuvre. Souvenez-vous là encore de ce que M. Armstrong disait il y a bien des années, à savoir que seules les personnes qui ont leur cœur dans l'œuvre vont rester fidèles. Oui, ce sont les personnes qui ont leur cœur dans l'œuvre qui vont rester fidèles. Alors que devons-nous faire pour terminer la croisade avec succès? Laissez-moi rapidement vous donner 4 points. Premièrement, restez proche de Dieu. Cela va de soi, mais voyons quand même ce qu'en dit Matthieu chapitre 7, au verset 21 à 23. Dans la dernière partie du sermon sur la montagne, Jésus donne un avertissement. Il dit, Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Oui, tous ceux qui viennent à l'église le jour du sabbat, tous ceux qui distribuent les livres de cantiques, tous ceux qui sont de service dans les aires de stationnement, tous ceux qui installent les chaises, ne seront pas nécessairement dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux. C'est aussi ce même Jésus qui a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et aussi allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile. » Verset 22, Matthieu 7, verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, donné des sermons par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, verset 23, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous devons donc être proches de Dieu. Prenons le temps de prier chaque jour. David a dit qu'il priait matin, midi et soir. Efforçons-nous de le faire, nous aussi. Prions pour l'œuvre. Prions pour nos émissions télévisées. Prions pour nos cours qui sont donnés en ligne. Prions les uns pour les autres. Ce sont là des choses que nous pouvons tous faire. Étudions notre Bible. Il est si facile de se laisser prendre au piège par toutes ces nouvelles qui sont diffusées dans les médias, et vous pourriez passer toute la journée sur l'ordinateur à vous renseigner sur ceci et cela et d'autres choses. Gardez plutôt le nez dans la Bible, afin de pouvoir vous préparer à montrer aux gens une meilleure façon de vivre. Tout cela vous fera rester proche de Dieu. Deuxième point, restez concentré sur votre mission. Priez à ce sujet. Priez pour les conférences publiques du monde de demain, pour que les gens soient motivés à vouloir faire quelque chose, à vouloir agir suite à ce qu'ils entendent. Donc, restons concentrés sur notre mission. Troisième point. Accomplissez la part qui vous est attribuée dans l'œuvre. Cela consistera en partie à vous mettre à genoux et à prier pour l'œuvre. Quoi que vous ayez à faire, faites-le de bon cœur et avec zèle. Cela vous préparera pour l'époque où vous aurez à enseigner dans le royaume de Dieu. Vous savez, Jésus a dit dans Jean, chapitre 17, verset 4, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Oui, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et au verset 18, il ajoute, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Il parle bien sûr de notre mission de prêcher l'Évangile. Finalement, quatrième point, développer de la compassion et de la sollicitude envers les êtres humains. Dans Ézéchiel chapitre 9, au verset 4, il est question de ces anges qui mettent une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui pleurent à cause de l'état de leur nation. Alors que nous voyons notre nation s'effondrer, nous ne pouvons pas avoir cette attitude qui consiste à dire « Bon débarras ». Non, les gens vont souffrir terriblement. Il nous faut donc prendre à cœur leur bien-être, leur montrer de la compassion et faire preuve de sollicitude envers eux. Parmi eux, il y aura peut-être nos voisins, nos parents, nos amis, et ils auront peut-être connu la grande tribulation. Dieu veut voir que nous nous soucions d'eux. Jésus-Christ est venu donner sa vie pour des gens qui l'ont fait mourir, finalement. Nous devons pareillement développer une attitude de compassion et de sollicitude envers notre prochain. Je suis tombé un jour sur une citation à propos de ce qu'est un leader. Un leader est une personne qui se soucie suffisamment de son prochain pour vouloir changer les circonstances qui lui causent du mal. Eh bien, notre croisade consiste justement à préparer la voie au retour de Jésus-Christ qui apportera la paix et la justice au monde. Frères et sœurs, alors que ce monde est pris dans ce tourbillon des fêtes de fin d'année, et cela continuera pendant les deux prochaines semaines, restons concentrés sur notre mission. Délivrons notre message d'avertissement et d'espoir. En tant que participants de cette dernière croisade, en bons croisés, continuons à grandir et à vaincre. Restons fermes jusqu'à la fin. Matthieu 24, verset 13 dit que « C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. » Si nous persévérons jusqu'à la fin, si nous achevons notre mission, nous finirons par contribuer au succès de cette dernière croisade, et nous nous retrouverons tous ensemble dans le royaume de Dieu.